Chapitre 7 Le testament d'Albus Dumbledore. Il marchait le long d'une route de montagne dans la lumière fraîche et bleue de l'aube. Loin, au-dessous de lui, enveloppé de brume, il voyait l'ombre d'une petite ville. L'homme qu'il cherchait était-il là-bas? L'homme à qui il avait tant besoin de parler qu'il ne pensait plus guère à autre chose? L'homme qui détenait la solution à son problème?
Hey, « Hé, réveille-toi !»
Harry ouvrit les yeux. Il était à nouveau allongé sur le lit de camp dans la chambre miteuse de Ron, sous les toits. Le soleil n'était pas encore levé et la pièce était plongée dans la pénombre. Coxigru dormait, la tête sous son aile minuscule. Harry sentait des picotements dans la cicatrice de son front.
« Tu murmurais dans ton sommeil ?»«
Ah bon ?»«
Ah oui, oui, t'arrêtais pas de répéter... » Grégorovitch.
Harry n'avait pas ses lunettes et le visage de Ron lui apparaissait légèrement flou.
Mais qui est Grégorovitch? Ben, je sais pas, moi. C'est toi qui parlais de lui.
Harry se massa le front, réfléchissant. Il avait la vague impression d'avoir déjà entendu ce nom, mais il ne se rappelait plus où.
Je crois que Voldemort le cherche. Le malheureux, dit Ron, sincère.
Harry se redressa, frottant toujours sa cicatrice. Il était tout à fait réveillé à présent et essaya de se souvenir exactement de ce qu'il avait vu dans son rêve. Mais tout ce qui lui revenait en mémoire, c'était un paysage de montagne et les contours d'un village niché au creux d'une vallée profonde. « Je pense qu'il est à l'étranger. »«
Qui ? Grégorovitch ? » ?»«
Non, Voldemort. » »« Je pense... » qu'il est quelque part à l'étranger à la recherche de Grégorovitch. Ça ne ressemblait pas à l'Angleterre.
« Tu crois que tu voyais à nouveau dans ta tête ?»
Ron semblait préoccupé. « S'il te plaît, ne le dis pas à Hermione, » lui demanda Harry. « D'ailleurs, comment voudrait-elle que je fasse pour ne plus rien voir dans mes rêves ?» Réfléchissant toujours, il regarda le petit coxigru dans sa cage. Pourquoi le nom de Grégorovitch lui était-il connu ?
« Je crois, » dit-il lentement, « qu'il a quelque chose à voir avec le Quidditch. Il y a un lien, mais je n'arrive pas à trouver lequel.
Le, »« Le Quidditch ?» s'étonna Ron.
« Tu ne penserais pas à Gorgovitch, par hasard ?»«
Qui ?»«
Dragomir Gorgovitch, poursuiveur, transféré dans l'équipe des canons de Chudley, pour une somme astronomique, hein, il y a 2 ans. » Il détient le record du joueur qui a le plus souvent lâché le soifle en une saison.
Non, répondit Harry, je ne pensais pas du tout à Gorgovitch.
Mais moi aussi, j'essaie de pas y penser. En tout cas, joyeux anniversaire.
Waouh, c'est vrai! J'avais oublié! J'ai 17 ans!
Harry prit sa baguette, posée à côté du lit de camp, la pointa sur le bureau encombré où il avait laissé ses lunettes et prononça la formule
Accio! Lunettes.
Bien qu'elles ne fussent qu'à une trentaine de centimètres de distance, il éprouva une immense satisfaction à les voir filer vers lui, tout au moins jusqu'à l'instant où il les reçut en plein dans l'œil.
« Joli !» ricana Ron. Ravi que la trace soit enfin supprimée,
Harry envoya les objets de Ron voler à travers la pièce, réveillant Coxigru qui s'agita frénétiquement dans sa cage.
Il tenta aussi de nouer les lacets de ses baskets par la magie. Il fallut plusieurs minutes pour dénouer à la main le nœud qui en résulta.
Et, pour le simple plaisir, colora d'un bleu vif les robes oranges que portaient les joueurs des canons de Chudley sur les affiches de Ron.
« Et si c'était toi, je fermerais ma braguette à la main, »
conseilla Ron, qui eut un petit rire moqueur en voyant Harry baisser les yeux pour vérifier.
« Voici ton cadeau. » « Ouvre-le ici, je veux pas que ma mère le voie. »«
Un livre ?» s'étonna Harry en prenant le paquet rectangulaire. « Une petite entorse à la tradition, on dirait. »«
Il ne s'agit pas de n'importe quel livre, » dit Ron. « C'est de l'or pur, hein, 12 moyens infaillibles de séduire les sorcières. »« Il explique tout ce qu'on doit savoir sur les filles. »« Si seulement je l'avais eu l'année dernière, j'aurais su exactement quoi faire pour me débarrasser de lavande. »« Et j'aurais su aussi comment m'y prendre avec... Enfin, bon, Fred et Georges m'en ont donné un exemplaire et j'y ai appris beaucoup de choses. Tu vas être surpris, hein. Ce n'est pas juste une question de baguette magique. »
Lorsqu'ils descendirent dans la cuisine, ils trouvèrent une pile de cadeaux sur la table.
Bill et M. de la Cour finissaient leur petit déjeuner, tandis que Mrs. Wesley, debout devant sa poêle à frire, bavardait avec eux.
« Arthur m'a chargé de te souhaiter un joyeux anniversaire pour tes 17 ans, »
dit Mrs. Wesley en lui adressant un sourire radieux.
« Il a dû partir tôt pour aller travailler, mais il reviendra à l'heure du dîner. Notre cadeau est le premier de la pile. »
Harry s'assit, prit le paquet carré qu'elle lui avait montré et déchira l'emballage. Il trouva à l'intérieur une montre très semblable à celle que M. et Mrs. Wesley avaient donnée à Ron pour ses 17 ans. Elle était en or, avec des étoiles qui tournaient autour du cadran en guise d'aiguille.
« Il est de tradition d'offrir une montre à un sorcier qui atteint sa majorité, » expliqua Mrs. Wesley en l'observant d'un œil anxieux à côté de sa cuisinière. « J'ai bien peur que celle-ci ne soit pas neuve comme l'était celle de Ron. En fait, c'était celle de mon frère Fabien, qui n'était pas très soigneux avec ses affaires. Le dos est un peu bosselé, mais... »
Le reste de ses paroles se perdit. Harry s'était levé et la serrait contre lui. Il s'efforça d'exprimer dans cette étreinte beaucoup de choses qu'il ne pouvait traduire en mots, et peut-être les comprit-elle, car lorsqu'il la relâcha, elle lui tapota maladroitement la joue, puis agita sa baguette magique, un peu à l'aveuglette, projetant hors de la poêle plusieurs tranches de lard qui tombèrent sur le sol.
« Joyeux anniversaire, Harry !»
lança Hermione, qui fit irruption dans la cuisine et ajouta son propre cadeau au sommet de la pile.
« Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça te plaira. Qu'est-ce que tu lui as offert ?»
demanda-t-elle à Ron, qui sembla ne pas l'avoir entendu.
« Bah vas-y, ouvre le cadeau d'Hermione » dit-il.
Elle lui avait acheté un nouveau scrutoscope. Les autres paquets contenaient un rasoir enchanté, offert par Bill et Fleur.
« Alors là, vous n'aurez jamais eu la peau aussi douce quand vous vous serez rasé avec ça !» lui assura Monsieur de la Cour. « Mais attention, il faut lui demander clairement ce que vous voulez, sinon, oh là là, vous vous retrouverez avec un peu moins de cheveux que prévu !»
Il y avait aussi des chocolats apportés par les deux la Cour et une énorme boîte des derniers articles en provenance des farces pour sorciers facétieux envoyées par Fred et Georges. Harry, Ron et Hermione ne restèrent pas longtemps à table, car avec l'arrivée de Madame de la Cour, de Fleur et de Gabriel, il y eut un peu trop de monde dans la cuisine pour qu'ils s'y sentent à l'aise.
« Je vais les mettre dans ton sac pour toi, »
dit Hermione d'un ton léger en prenant les cadeaux des bras de Harry tandis qu'ils remontaient tout droit l'escalier.
« J'ai presque fini les bagages. J'attends simplement que le reste de tes caleçons soit lavé, Ron. »
Les balbutiements de Ron furent interrompus par le bruit d'une porte qui s'ouvrait au premier étage.
« Harry, tu veux bien venir un instant ?»
C'était Ginny. Ron s'immobilisa brusquement, mais Hermione le prit par le bras et l'entraîna avec elle en haut des marches. Un peu inquiet, Harry suivit Ginny dans sa chambre. Il n'y était encore jamais entré. Elle était petite, mais lumineuse. Une grande affiche des Bizarre Sisters ornait l'un des murs et une image de Gwenog Jones, capitaine de l'équipe exclusivement féminine des Harpies de Holyhead, était accrochée au mur d'en face. Il y avait un bureau devant la fenêtre ouverte qui donnait sur le verger où, l'année précédente, Ginny et lui avaient joué au Quidditch en double avec Ron et Hermione. L'endroit était maintenant occupé par un grand chapiteau d'un blanc nacré. L'étendard doré qui flottait à son sommet était au niveau de la fenêtre. Ginny regarda Harry dans les yeux, prit une profonde inspiration et dit
« Joyeux anniversaire !»«
Ouais, merci. »
Elle le fixait sans ciller. Lui, en revanche, avait du mal à soutenir son regard.
C'était comme s'il avait une lueur éclatante devant les yeux. « Jolie vue !»
dit-il d'une voix faible en montrant la fenêtre. Elle ne prêta aucune attention à sa remarque, et il ne pouvait lui en vouloir.
« Je ne savais pas quoi t'offrir, »
dit-elle.
« Tu n'es pas obligé de me faire de cadeaux. »
Cette fois encore, elle ignora sa réponse. « Je ne savais pas ce qui te serait utile. Rien de trop grand, parce que tu ne pourrais pas l'emporter avec toi. »
Il se risqua à lui jeter un regard.
Elle n'avait pas les larmes aux yeux. C'était l'une des nombreuses et merveilleuses qualités de Ginny. Elle pleurait rarement. Souvent, il se disait que le fait d'avoir 6 frères avait dû l'endurcir. Elle s'avança d'un pas vers lui.
« J'ai donc eu l'idée de t'offrir quelque chose pour que tu te souviennes de moi, au cas, par exemple, où tu rencontrerais une Vélane pendant que tu seras parti faire je ne sais quoi.
Pour être franc, je ne crois pas que j'aurai beaucoup d'occasion d'inviter des filles à dîner là où je serai. »
C'est l'espoir que j'avais,
murmura-t-elle. Elle l'embrassa, alors, comme jamais elle ne l'avait embrassé auparavant.
Et Harry lui rendit son baiser, se laissant envahir par une délicieuse sensation d'oubli que jamais le whisky pur feu n'aurait pu lui procurer.
La seule réalité qui comptait au monde, c'était elle, Ginny. Il la sentait contre lui, une main au creux de son dos, l'autre caressant ses longs cheveux au parfum suave.
Derrière eux, la porte s'ouvrit soudain, à la volée. Ils sursautèrent, s'écartant l'un de l'autre. « Oh !» dit Ron, fort à propos. « Ah, désolé !»«
Ron !»
Et Hermione était juste derrière lui, légèrement essoufflée. Il y eut un silence tendu, puis d'une petite voix, Ginny lança.
« En tout cas... « Joyeux anniversaire, Harry !»
Ron avait les oreilles écarlates. Hermione paraissait mal à l'aise. Harry aurait voulu leur claquer la porte au nez, mais on aurait dit qu'un courant d'air glacé avait pénétré dans la pièce et son moment de félicité avait éclaté comme une bulle de savon. Toutes les raisons qu'il avait de mettre fin à sa liaison avec Ginny, de s'éloigner d'elle le plus possible, étaient revenues sournoisement dans la pièce lorsque Ron en avait ouvert la porte et le bonheur de cet instant d'oubli s'était volatilisé. Il regarda Ginny, voulant lui dire quelque chose, même s'il ne savait pas quoi, mais elle lui avait tourné le dos. Il pensa que pour une fois, peut-être, elle s'était laissée gagner par les larmes. Devant Ron, cependant, il ne pouvait rien faire pour la consoler.
« À tout à l'heure » dit-il, et il suivit les deux autres dans le couloir.
Ron descendit les escaliers d'un air décidé, traversa la cuisine, toujours bondée, et sortit dans la cour. Harry lui avait emboîté le pas, Hermione trottinant derrière eux, visiblement effrayée. Lorsqu'il eut atteint l'espace désert de la pelouse fraîchement tondue, Ron se tourna vers Harry.
« Tu l'as laissé tomber? Pourquoi tu t'amuses avec elle maintenant ?»
« Je ne m'amuse pas avec elle !» protesta Harry alors qu'Hermione les rejoignait.
« Ron !»
Mais Ron leva la main pour la faire taire.
« Elle avait le moral à zéro quand tu as rompu.
Moi aussi. Tu sais très bien pourquoi j'ai rompu. Ce n'était pas parce que j'en avais envie.
Oui, mais maintenant, tu vas dans sa chambre pour la bécoter et elle va de nouveau s'imaginer des choses.
Elle n'est pas idiote. Elle sait que c'est impossible. Elle ne s'attend pas à ce qu'on finisse marié ou... » En même temps qu'il parlait... Harry voyait surgir dans sa tête l'image éclatante de Ginny vêtue d'une robe blanche et se mariant avec un inconnu sans visage, grand et antipathique. Dans un instant de vertige, cette idée le frappa soudain. L'avenir de Ginny était libre, débarrassé de toute entrave, alors que le sien, il n'avait devant lui que Voldemort.
« Si tu commences à la tripoter à la première occasion, ça n'arrivera plus !» coupa Harry d'un ton brusque.
Le ciel était sans nuages, mais il avait l'impression que le soleil avait disparu.
« Ok !» ajouta-t-il.
Ron paraissait moitié indigné, moitié penaud. Il se balança d'avant en arrière sur ses talons, puis répondit.
« Bon, d'accord. »
Ce jour-là, Ginny ne chercha plus à se retrouver en tête-à-tête avec Harry. Elle n'eut aucun regard, aucun geste qui puisse laisser croire qu'ils avaient partagé autre chose qu'une conversation polie quand ils s'étaient retrouvés dans sa chambre. L'arrivée de Charlie fut toutefois un soulagement pour Harry. Elle lui offrit une distraction de choix lorsque Mrs. Weasley obligea son fils à s'asseoir dans un fauteuil et leva sa baguette d'un geste menaçant en lui annonçant qu'il allait enfin avoir une bonne coupe de cheveux.
Comme le dîner d'anniversaire de Harry aurait rempli à craquer la cuisine du terrier, même avant l'arrivée de Charlie, Lupin, Tonk et Hagrid, des tables furent disposées bout à bout dans le jardin. Fred et George ensorcelèrent des lanternes violettes, toutes marquées du chiffre 17, pour qu'elles restent suspendues d'elles-mêmes dans les airs au-dessus des invités.
Grâce aux bons soins de Mrs. Weasley, la blessure de George était nette et propre. Mais Harry ne s'était toujours pas habitué à voir un trou sombre sur le côté de sa tête, malgré les nombreuses plaisanteries des jumeaux à ce sujet. Hermione fit jaillir de l'extrémité de sa baguette des serpentins dorés et violets qui vinrent s'enrouler comme une véritable œuvre d'art autour des arbres et des buissons. « Oh, c'est très beau !» dit Ron, tandis que d'un dernier mouvement de sa baguette, Hermione colorait d'or les feuilles du pommier sauvage. « Oh, tu as vraiment l'œil pour ces choses-là !»«
Merci, Ron !» répondit Hermione, à la fois ravie et un peu perplexe.
Harry se détourna, se souriant à lui-même. Il avait l'étrange impression que, lorsqu'il aurait le temps de le lire, il trouverait un chapitre sur les compliments dans 12 moyens infaillibles de séduire les sorcières. Il croisa le regard de Ginny et lui sourit avant de se rappeler sa promesse à Ron. Il s'empressa alors d'engager la conversation avec M. Delacour.
« Attention devant ! Attention devant !» lança Mrs. Weasley d'une voix chantante.
Elle franchit la porte du jardin, précédée d'un objet semblable à un vif d'or géant de la taille d'un ballon de plage qui flottait devant elle. Un instant plus tard, Harry s'aperçut qu'il s'agissait de son gâteau d'anniversaire que Mrs. Weasley préférait transporter par la voie des airs à l'aide de sa baguette magique plutôt que de prendre le risque de le porter elle-même sur ce sol inégal. Quand le gâteau eut enfin atterri au milieu de la longue table, Harry s'exclama
« Ça a l'air absolument magnifique, Madame Weasley !»«
Oh, ce n'est rien, mon chéri !»
répondit-elle d'un ton affectueux. Par-dessus l'épaule de sa mère, Ron leva les deux pouces vers Harry en formant sur ses lèvres les mots « Très bon !» Vers 7 heures du soir, tous les invités étaient arrivés sous la conduite de Fred et de George qui les avaient attendus au bout de la route. Pour l'occasion, Hagrid portait son plus beau et horrible costume marron et pelucheux. Malgré le grand sourire que Lupin lui adressa en lui serrant la main, Harry trouva qu'il avait l'air malheureux. C'était curieux. Car Tonks, qui se tenait à côté de lui, paraissait tout simplement radieuse.
« Joyeux anniversaire, Harry !»
dit-elle, et elle le serra dans ses bras.
« Alors, ça y est, oh, tu as 17 ans !»
lança Hagrid en prenant le verre de vin de la taille d'un seau que lui tendait Fred.
« Oh !» « Ça fait 6 ans qu'on s'est vus pour la première fois, Harry. Tu te souviens ?»«
Vaguement, » répondit celui-ci avec un sourire. « C'était le jour où vous avez défoncé la porte, où vous avez fait pousser une queue de cochon à Dudley et où vous m'avez annoncé que j'étais un sorcier ?»«
Oh oui, j'avais oublié les détails, » gloussa Hagrid. « Ça va, Ron ? Hermione ?»
« Très bien !» assura Hermione. « Et vous ?»«
Oh, pas mal. Beaucoup de travail. On a eu des bébés licornes. Je vous les montrerai quand vous reviendrez. »
Harry évita le regard de Ron et d'Hermione pendant que Hagrid fouillait dans sa poche.
Tiens, Harry !» reprit Hagrid. « Je savais pas quoi t'offrir, mais je me suis rappelé que j'avais ça. »
Il sortit une petite bourse à l'aspect légèrement duveteux, doté d'un long cordon destiné de toute évidence à être passé autour du cou.
« De la peau de manque. Oh, on peut cacher ce qu'on veut là-dedans. Et seul son propriétaire peut récupérer ce qu'il y a mis. Rare, hein, ces trucs-là. »«
Oh, merci, Hagrid. »«
Oh, c'est rien !»
dit-il en agitant une main de la taille d'un couvercle de poubelle.
« Et voilà Charlie ! Oh, je l'ai toujours bien aimé, celui-là ! Charlie !»
Charlie s'approcha, passant les doigts d'un air un peu triste sur ses cheveux, brutalement raccourcis. Il était plus petit que Ron, trapu, et ses bras musculeux portaient de nombreuses traces de coups de griffes et de brûlures.
« Ah, salut Hagrid ! Hey, comment ça va ?»«
Ça fait une éternité que je voulais t'écrire. Comment va Norbert ?»
Norbert ?
S'esclaffa Charlie.
Le Norvégien à crête ? On l'appelle Norberta maintenant.
Comment, Norbert ? Une fille ?
Ah oui, dit Charlie.
Comment peut-on le savoir ?
Interrogea Hermione.
Bah, elles sont beaucoup plus féroces, répondit Charlie.
Il regarda par-dessus son épaule et baissa la voix.
Et je voudrais bien que papa se dépêche de revenir. Hein. Maman commence à s'inquiéter. »
Ils se tournèrent tous vers Mrs. Wesley. Elle essayait de bavarder avec Madame de la Cour en jetant des coups d'œil répétés vers le portail.
« Je crois que nous devrions commencer sans attendre Arthur, » annonça-t-elle à la cantonade. « Il a dû être retenu. Oh !»
Ils la virent tous en même temps. Une traînée de lumière qui vola à travers la cour et atterrit sur la table où elle se transforma en une belette d'une éclatante couleur argentée. Se dressant sur ses pattes de derrière, elle parla avec la voix de Monsieur Wesley.
« Le ministre de la magie va venir avec moi !»
Puis le patronus se dissipa dans les airs alors que la famille de fleurs continuait de regarder bouche bée l'endroit d'où il venait de se volatiliser.
« Il ne faut pas que nous restions ici !» dit aussitôt Lupin. « Harry, je suis désolé, je t'expliquerai plus tard !»
Il saisit Tonk par le poignet et l'entraîna avec lui. Ils allèrent jusqu'à la clôture, l'enjambèrent, puis disparurent. Mrs. Wesley sembla déconcertée.
« Le ministre ? Mais pourquoi ? Je comprends pas !»
Ils n'eurent cependant pas le temps d'en dire davantage. Une seconde plus tard, M. Wesley se matérialisa devant le portail, accompagné de Rufus Crimejour, immédiatement reconnaissable à sa crinière de cheveux grisonnants. D'un pas énergique, les deux nouveaux venus traversèrent la cour en direction du jardin et de la table éclairée par les lanternes autour de laquelle tout le monde était assis en silence, les regardant s'approcher. Lorsque Crimejour s'avança dans la lumière, Harry remarqua qu'il paraissait beaucoup plus vieux que lors de leur dernière rencontre. Il avait l'air décharné, la mine sinistre.
« Désolé de cette intrusion, »
s'excusa Crimejour en marchant jusqu'à la table d'un pas boitillant.
« D'autant plus que je tombe en pleine fête à ce que je vois. »
Son regard s'attarda un instant sur le gâteau en forme de vif d'or géant.
« Tous mes vœux. »«
Merci, » répondit Harry.
« Je souhaiterais m'entretenir avec vous en particulier, » poursuivit Crimejour. « Ainsi qu'avec M. Ronald Wesley et Miss Hermione Granger. »«
Nous ?» s'étonna Ron. « Et pourquoi nous ?»«
Je vous expliquerai tout cela lorsque nous serons dans un lieu plus discret, » dit le ministre. « Pouvez-vous m'indiquer un tel endroit ?» demanda-t-il à M. Wesley.
« Ah ben oui, bien sûr !» répondit ce dernier, mal à l'aise. « Le salon, hein ? Pourquoi ne pas vous installer là-bas ?»
« Montrez-nous donc le chemin, » dit Crimejour à Ron. « Il n'est pas nécessaire de nous accompagner, Arthur. »
Au moment où il se levait de table avec Ron et Hermione, Harry vit M. Wesley échanger un regard inquiet avec Mrs. Wesley. Tandis qu'ils ouvraient la marche en silence, Harry sut que les deux autres pensaient la même chose que lui. Crimejour avait dû apprendre d'une manière ou d'une autre qu'ils avaient tous les trois l'intention d'abandonner Poudlard. Crimejour ne prononça pas un mot lorsqu'ils traversèrent la cuisine en désordre pour se rendre dans le salon du terrier. La tombée du jour baignait encore le jardin d'une lumière douce et dorée. La maison, en revanche, était déjà plongée dans l'obscurité. En entrant, Harry donna un petit coup de baguette vers les lampes à huile qui illuminèrent aussitôt la pièce un peu défraîchie mais confortable. Crimejour s'assit dans le fauteuil défoncé que M. Wesley occupait ordinairement, laissant Harry, Ron et Hermione se serrer sur le canapé. Une fois qu'ils furent installés, Crimejour prit la parole.
« J'ai des questions à poser à chacun d'entre vous et je pense qu'il vaudrait mieux que je le fasse seul à seul. Si vous voulez bien l'attendre en haut tous les deux, » il montra Harry et Hermione. « Je commencerai par Ronald. »
« Nous ne bougerons pas d'ici, » répliqua Harry, approuvé par Hermione qui hocha vigoureusement la tête. « Vous nous parlerez à tous les trois ensemble ou pas du tout ?» Crimejour jaugea Harry d'un regard froid. Harry eut l'impression que le ministre se demandait s'il valait la peine d'ouvrir déjà les hostilités.
« Très bien, dans ce cas, restons ensemble, » dit-il avec un haussement d'épaules.
Il s'éclaircit la gorge avant de continuer.
« Comme vous le savez sûrement, c'est le testament d'Albus Dumbledore qui m'amène ici. »
Harry, Ron et Hermione échangèrent un regard.
Apparemment, il s'agit d'une surprise. Vous ignoriez donc que Dumbledore vous avait légué quelque chose.
À tous les trois ? Demanda Ron. À Hermione et à moi aussi ?
Oui, à tous les trois.
Mais Harry l'interrompit. Dumbledore est mort il y a plus d'un mois. Pourquoi faut-il si longtemps pour nous donner cet héritage ?
C'est évident, non ?
Intervint Hermione avant que Scrimgeour ait pu répondre.
Il voulait examiner ce qu'il nous a laissé.
Vous n'aviez aucun droit de faire ça, ajouta-t-elle d'une voix qui tremblait légèrement.
J'avais tous les droits, répliqua Scrimgeour avec dédain. Le décret sur les confiscations légitimes donne au ministère le pouvoir de confisquer le contenu d'un testament.
Cette loi a été créée pour empêcher les sorciers de léguer des instruments de magie noire, objecta Hermione. Et le ministère doit d'abord posséder des preuves que les objets en possession du défunt sont illégaux avant de les saisir. Vous voulez insinuer que Dumbledore a essayé de nous transmettre quelque chose de maléfique ?
Avez-vous l'intention de faire carrière dans la justice magique, Miss Granger ?
Interrogea Scrimgeour.
Non, pas du tout, répliqua Hermione. J'espère plutôt pouvoir faire un peu de bien dans le monde.
Ron éclata de rire. Scrimgeour tourna un rapide regard vers lui, puis fixa à nouveau Harry lorsque celui-ci parla.
« Alors, pourquoi avez-vous décidé maintenant que nous pouvions recevoir ce qui nous revient ? Vous n'avez pas trouvé de prétexte pour le garder ?
Non, 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 c'est simplement parce que le délai de 31 jours est écoulé,
répondit aussitôt Hermione. Ils ne peuvent pas conserver les objets plus longtemps, à moins d'avoir pu prouver qu'ils étaient dangereux. C'est bien ça ?
« Diriez-vous que vous étiez proche de Dumbledore, Ronald ?»
demanda Scrimgeour sans prêter attention à Hermione. Ron parut surpris.
« Moi, pas vraiment. C'était toujours Harry qui... »
Ron se tourna vers les deux autres et vit Hermione lui lancer un regard qui signifiait « Tais-toi maintenant !» Mais le mal était déjà fait. Scrimgeour semblait avoir entendu exactement la réponse qu'il attendait et qu'il souhaitait entendre. Il fondit sur Ron comme un rapace sur sa proie.
« Si vous n'étiez pas très proche de Dumbledore, comment expliquez-vous qu'il se soit souvenu de vous dans son testament ? Le nombre de legs qu'il contient est exceptionnellement réduit, la quasi-totalité de ce qu'il possédait. Sa bibliothèque privée, ses instruments magiques et autres effets personnels revient à Poudlard. Pourquoi pensez-vous qu'il vous est ainsi distingué ?
Je ne sais pas. Répondit Ron. Quand je disais nous n'étions pas très proches, je crois quand même qu'il m'aimait bien.
Tu es trop modeste, Ron, déclara Hermione. Dumbledore avait une très grande affection pour toi.
C'était repousser un peu loin les limites de la vérité. Autant que Harry pouvait le savoir, Ron et Dumbledore ne s'étaient jamais trouvés seuls en tête à tête, et le nombre de contacts directs qu'ils avaient eus était négligeable. Mais de toute façon, Scrimgeour ne semblait pas écouter. Il plongea une main sous sa cape et en sortit une bourse à cordon beaucoup plus grande que celle offerte à Harry par Hagrid. Il prit à l'intérieur un rouleau de parchemin qu'il déroula et lut à haute voix.
« Dernière volonté et testament d'Albus Perceval Wilfric, Brian Dumbledore. Voyons, voilà. » À Ronald Bilius Wesley, je laisse mon déluminateur dans l'espoir qu'il se souviendra de moi lorsqu'il s'en servira.
Scrimgeour prit dans le sac un objet que Harry avait déjà vu auparavant. On aurait dit un petit briquet d'argent, mais il savait qu'il était doté du pouvoir d'éteindre ou de rallumer, grâce à un geste simple du doigt, toute source de lumière proche. Scrimgeour se pencha et donna le déluminateur à Ron, qui le retourna entre ses mains, l'air stupéfait.
« C'est un objet de grande valeur, » commenta Scrimgeour en observant Ron. « Peut-être même est-il unique. En tout cas, il est certain que Dumbledore l'a conçu lui-même. Pourquoi, à votre avis, vous a-t-il légué un instrument si rare ?»
Ron hocha la tête d'un air perplexe.
« Dumbledore a dû avoir des milliers d'élèves, » insista Scrimgeour. Pourtant, vous êtes tous les trois les seuls dont il se souvienne dans son testament. Pour quelle raison ? quel usage pensait-il que vous feriez de ce déluminateur, monsieur Wesley ?
Il pensait que j'éteindrais les lumières, j'imagine,
grommela Ron.
À quoi ça peut servir d'autre ?
De toute évidence, Scrimgeour n'avait pas d'autre idée à proposer. Après avoir fixé Ron de ses yeux plissés pendant quelques instants, il se pencha à nouveau sur le testament de Dumbledore.
« À Miss Hermione, Jean Granger, je lègue mon exemplaire des contes de Beadle le Barde, dans l'espoir qu'elle y trouvera de quoi se divertir et s'instruire. »
Scrimgeour sortit alors du sac un petit livre qui avait l'air aussi ancien que le volume des secrets les plus sombres des forces du mal resté dans la chambre du haut. Sa reliure était maculée et se décollait par endroits. Sans un mot, Hermione le prit des mains de Scrimgeour. Elle posa le livre sur ses genoux et le contempla. Harry vit que le titre était écrit en runes. Il n'avait jamais appris à les lire. Tandis qu'il regardait la couverture, il vit une larme s'écraser sur les symboles gravés dans le cuir.
« Pourquoi pensez-vous que Dumbledore vous a laissé cet ouvrage, Miss Granger ?»
interrogea Scrimgeour.
« Il savait que j'aimais les livres, » répondit Hermione d'une voix sourde en se tamponnant les yeux avec sa manche.
« Mais pourquoi ce livre en particulier ?»
« Je ne sais pas. Il a dû penser qu'il me plairait. »«
Avez-vous jamais parlé avec Dumbledore de code ou d'autres moyens de transmettre des messages secrets ?»«
Non, jamais, »
répondit Hermione qui continuait de s'essuyer les yeux avec sa manche.
« Et si, en 31 jours, le ministère n'a découvert aucun code caché dans ce livre, je doute que j'y arriverai moi-même. »
Elle étouffa un sanglot. Ils étaient si étroitement serrés les uns contre les autres que Ron eut du mal à extraire un bras pour le passer autour des épaules d'Hermione. Scrimgeour poursuivit sa lecture du testament.
« À Harry, James Potter !»
Harry sentit une soudaine excitation lui contracter les entrailles.
« Je lègue le vif d'or qu'il a attrapé lors de son premier match de Quidditch à Poudlard, pour lui rappeler ce que la persévérance et le talent apportent de récompense et de bienfaits. »
Lorsque Scrimgeour sortit la minuscule balle d'or de la taille d'une noix, les ailes dont elle était pourvue battirent faiblement et Harry ne put s'empêcher d'éprouver une profonde déception.
« Pourquoi Dumbledore vous a-t-il fait don de ce vif d'or ?»
demanda Scrimgeour.
« Aucune idée, » répondit Harry. « Pour les raisons que vous venez de lire, je suppose. Pour me rappeler... « Ce qu'on peut obtenir quand on persévère, enfin ce qu'il a écrit. »«
Alors vous pensez qu'il s'agit d'un simple symbole ?»«
J'imagine, » dit Harry. « Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre ?»«
C'est moi qui pose les questions, »
déclara Scrimgeour en rapprochant un peu son fauteuil du canapé. Au dehors, c'était vraiment le crépuscule. Par les fenêtres, on apercevait les contours du chapiteau qui se dressait comme un fantôme blanc au-dessus de la haie.
« J'ai remarqué que votre gâteau d'anniversaire avait la forme d'un vif d'or, »
dit Scrimgeour à Harry. « Pour quelle raison ?»
Hermione eut un rire moqueur. « Ça ne peut certainement pas être une allusion au fait que Harry est un remarquable attrapeur. Ce serait trop évident, lança-t-elle. Il doit sûrement y avoir un message secret de Dumbledore caché dans la crème chantilly. »
« Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit caché dans la crème, »
répliqua Scrimgeour.
« Mais un vif d'or serait certainement une bonne cachette pour dissimuler un petit objet. Vous savez sûrement pourquoi. »
Harry haussa les épaules. Ce fut Hermione qui répondit. Harry pensa que l'habitude de donner les bonnes réponses aux questions était tellement ancrée en elle qu'elle s'était transformée en un besoin irrésistible.
« Parce que les vifs d'or ont une mémoire tactile, »
dit-elle.
« Quoi ?»
s'exclamèrent Harry et Ron d'une même voix. Tous deux avaient toujours considéré comme négligeables les connaissances d'Hermione en matière de Quidditch.
« Exact, » répondit Scrimgeour. « Avant d'être lâché, un vif d'or n'est jamais touché à main nue, pas même par le fabricant qui porte toujours des gants. Il est doté d'un enchantement lui permettant d'identifier le premier humain qui pose la main sur lui au cas où sa capture donnerait lieu à contestation. Ce vif d'or, il leva devant lui la petite balle dorée, se souviendra de votre toucher, Potter. L'idée m'est venue que Dumbledore, qui possédait des dons magiques prodigieux, quels qu'étaient par ailleurs ses défauts, a peut-être ensorcelé ce vif, afin qu'il ne puisse s'ouvrir que pour vous. »
Le cœur de Harry se mit à battre plus fort. Il était persuadé que Scrimgeour avait raison. Mais comment éviter de prendre le vif d'or à main nue devant le ministre ?
« Vous restez silencieux, » remarqua Scrimgeour. « Peut-être savez-vous déjà ce que contient ce vif ?»«
Non, » affirma Harry, qui se demandait toujours comment faire semblant de prendre l'objet sans le toucher véritablement. « Si seulement il avait su pratiquer la légilimancie, la pratiquer vraiment, il aurait pu lire les pensées d'Hermione. Il avait presque l'impression d'entendre son cerveau vibrer à côté de lui. »
« Prenez-le !» dit Scrimgeour à voix basse.
Harry croisa le regard au reflet jaune du ministre et comprit qu'il n'avait d'autre possibilité que d'obéir. Il tendit la main. Scrimgeour se pencha à nouveau et posa le vif d'or lentement, délibérément, dans la paume de Harry. Rien ne se produisit. Lorsque Harry referma les doigts sur le vif, ses ailes fatiguées battirent un instant, puis s'immobilisèrent. Scrimgeour, Ron et Hermione observaient avec des yeux avides la petite balle à moitié cachée, comme s'ils espéraient qu'elle allait se transformer en quelque chose d'autre. « Voilà qui est spectaculaire !» dit froidement Harry. Ron et Hermione éclatèrent de rire. « C'est tout maintenant ?» demanda Hermione, qui esquissa un geste pour s'arracher du canapé.
« Pas tout à fait !» répondit Scrimgeour avec un air de mauvaise humeur. « Dumbledore vous a légué autre chose, Potter !»«
Quoi ?» interrogea Harry, son excitation ravivée. Cette fois, Scrimgeour ne prit plus la peine de lire le testament.
« L'épée de Godric Gryffondor !» dit-il.
Hermione et Ron se raidirent. Harry regarda, s'attendant à voir apparaître la poignée incrustée de rubis, mais Scrimgeour ne sortit pas l'épée du sac de cuir, qui, d'ailleurs, ne paraissait pas assez grand pour la contenir.
« Alors où est-elle ? »
demanda Harry d'un ton soupçonneux.
« Malheureusement, » répondit Scrimgeour, « il n'appartenait pas à Dumbledore de faire don de cette épée. L'épée de Godric Gryffondor est un objet d'une grande importance historique et en tant que telle, elle appartient... »«
Elle appartient à Harry !» s'enflamma Hermione. « L'épée l'a choisie. C'est lui qui l'a trouvée. Elle est sortie du choix peau magique pour venir à lui. »
« Selon des sources historiques dignes de foi, l'épée se présente parfois à tout élève de Gryffondor qui s'en montre digne, » expliqua Scrimgeour. « Cela n'en fait pas la propriété exclusive de Monsieur Potter, quelle que soit la décision de Dumbledore. »
Scrimgeour gratta sa joue mal rasée en scrutant le visage de Harry.
« Pourquoi pensez-vous que... »«
Dumbledore ait voulu me donner l'épée, » acheva Harry qui s'efforçait de rester calme. « Peut-être pensait-il qu'elle irait bien sur le mur de mon salon ?»«
Ce n'est pas une plaisanterie, Potter !»
grogna Scrimgeour.
« Était-ce parce que Dumbledore croyait que seule l'épée de Gryffondor pourrait vaincre l'héritier de Serpentard ?» Souhaitait-il vous la confier parce qu'il était convaincu, comme beaucoup d'autres, que vous êtes destiné à anéantir celui dont on ne doit pas prononcer le nom ?
Ah, intéressante théorie, commenta Harry. Quelqu'un a-t-il déjà tenté de passer une épée au travers du corps de Voldemort ? Le ministère devrait peut-être envoyer quelques-uns de ses employés étudier la question plutôt que de leur faire perdre leur temps à démonter des déluminateurs ou à cacher au public les évasions d'Azkaban. C'est donc ainsi que vous occupez vos journées, monsieur le ministre, enfermé dans votre bureau à essayer d'ouvrir un vif d'or? Des gens meurent. C'est ce qui a failli m'arriver. Voldemort m'a poursuivi à travers trois comtés. Il a tué Maugrey Folleuil, mais le ministère n'en a pas dit un mot, n'est-ce pas ? Et vous pensez toujours que nous allons coopérer avec vous ?
Vous allez trop loin !
S'écria Scrimgeour en se levant. D'un bond, Harry se leva à son tour.
Scrimgeour s'avança vers lui d'un pas claudiquant et lui enfonça brutalement dans la poitrine le bout de sa baguette magique. Elle perça un trou dans le t-shirt de Harry à la manière d'une brûlure de cigarette. « Hola !» s'exclama Ron, qui avait bondi, sa baguette levée, mais Harry l'arrêta d'un geste. « Non !» lança-t-il. « Tu veux lui donner un prétexte pour nous arrêter ?»«
Je vous rappelle que vous n'êtes pas retourné à l'école. »
reprit Scrimgeour en respirant bruyamment à quelques centimètres du visage de Harry.
« Je vous rappelle aussi que je ne suis pas Dumbledore qui pardonnait votre insolence et votre insubordination. Vous portez peut-être cette cicatrice comme une couronne, Potter, mais il n'appartient pas à un garçon de 17 ans de me dire comment je dois faire mon travail. Il serait temps que vous appreniez à manifester un peu de respect.
Il serait temps que vous le méritiez, » répliqua Harry. Le sol vibra. Il y eut des bruits de pas précipités, puis la porte du salon s'ouvrit à la volée, et Monsieur et Mrs. Weasley entrèrent en courant.
« Nous avons cru entendre !»
commença Monsieur Weasley, l'air très inquiet, en voyant Harry et le ministre pratiquement nez à nez.
« Des éclats de voix !»
acheva Mrs. Weasley, haletante. Scrimgeour recula de deux pas et jeta un coup d'œil au trou qu'il avait fait dans le t-shirt de Harry. Il semblait regretter d'avoir perdu son calme.
« Ce n'était rien, » grogna-t-il. « Je regrette votre attitude, » ajouta-t-il en regardant à nouveau Harry dans les yeux. « Vous avez l'air de penser que le ministère ne désire pas la même chose que vous, que Dumbledore. Nous devrions travailler ensemble. »«
Je n'aime pas vos méthodes, monsieur le ministre, » répondit Harry. « Vous vous souvenez ?» Il leva son poing droit et montra pour la deuxième fois à Scrimgeour les cicatrices blanchâtres qu'avaient laissées sur le dos de sa main les mots « Je ne dois pas dire de mensonges ». Les traits de Scrimgeour se durcirent. Il se tourna sans ajouter un mot et sortit de la pièce en boitant. Mrs. Weasley se hâta derrière lui. Harry l'entendit s'arrêter à la porte de derrière. Une minute plus tard, elle leur cria
« Il est parti !»
« Et qu'est-ce qu'il voulait ?» demanda M. Weasley. Il regarda tour à tour Harry, Ron et Hermione, tandis que Mrs. Weasley revenait précipitamment dans le salon. « Nous donner l'héritage que Dumbledore nous a laissé, » répondit Harry. « Ils viennent seulement d'autoriser à sortir du ministère ce qu'il nous léguait dans son testament. » Dehors, dans le jardin, les trois objets que Scrimgeour leur avait apportés passèrent de main en main autour des tables. Tout le monde admira à grands cris le déliminateur et les contes de Biddle le barde, en déplorant que Scrimgeour ait refusé de donner l'épée de Gryffondor. Mais personne ne sut expliquer pourquoi Dumbledore avait légué à Harry un vieux vif d'or. Pendant que M. Weasley examinait le déluminateur pour la troisième fois ou quatrième fois, Mrs. Weasley dit à Harry d'une voix timide
« Harry, mon chéri, nous avons tous horriblement faim. Nous ne voulions pas commencer sans toi. Je peux servir à dîner maintenant ?»
Les invités mangèrent assez vite, et après qu'ils eurent précipitamment chanté en chœur « Joyeux anniversaire » et englouti de grandes parts de gâteau, la fête prit fin. Hagrid, qui était invité au mariage le lendemain, mais dont la corpulence lui interdisait de dormir dans le terrier surpeuplé, partit se dresser une tente dans un champ voisin.
« Viens nous retrouver là-haut, »
murmura Harry à Hermione, tandis qu'ils aidaient Mrs. Weasley à remettre le jardin dans son état habituel.
Quand tout le monde sera couché. »
Lorsqu'ils furent remontés dans la chambre sous les toits, Ron examina le déluminateur et Harry remplit la bourse en peau de moque de Hagrid, non pas avec de l'or, mais avec les objets qui avaient le plus de prix à ses yeux, bien que certains n'aient apparemment aucune valeur. La carte du maraudeur, le fragment du miroir magique de Sirius et le médaillon de R.A.B. Il serra étroitement les cordons et passa la bourse autour de son cou. Puis, il s'assit, en tenant au creux de sa main le vieux vif d'or, dont il regarda les ailes s'agiter faiblement. Enfin, Hermione frappa à la porte et entra sur la pointe des pieds.
« Assurdiato !»
murmura-t-elle, sa baguette pointée vers l'escalier.
« Je croyais que tu n'approuvais pas ce sortilège, » dit Ron.
« Les temps changent, » répondit Hermione.
« Montre-nous un peu le déluminateur. »
Ron ne se fit pas prier. Il l'actionna en le tenant devant lui et l'unique lampe qui éclairait la pièce s'éteignit aussitôt.
« En fait,
chuchota Hermione dans l'obscurité.
On aurait pu obtenir le même résultat avec la poudre d'obscurité instantanée du Pérou.
Il y eut un petit clic et la boule de lumière de la lampe remonta au plafond, les éclairant à nouveau.
« C'est quand même plus cool, » répliqua Ron un peu sur la défensive.
« Et d'après ce qu'ils disent, Dumbledore l'a inventé lui-même. » « Je sais, je ne pense pas qu'il t'aurait couché dans son testament simplement pour nous aider à éteindre la lumière. »
« Tu crois qu'il savait que le ministère confisquerait pour analyse tous les objets qu'il nous a légués ?» demanda Harry.
« Certainement, » répondit Hermione. « Il ne pouvait nous indiquer dans son testament pourquoi il nous les laissait, mais cela n'explique toujours pas pourquoi il ne nous a pas donné un indice quand il était encore vivant, » acheva Ron.
« Exactement. » approuva Hermione qui feuilletait à présent les contes de Biddle le Barde.
« Si ces choses-là sont suffisamment importantes pour passer sous le nez du ministère, on pourrait penser qu'il nous aurait révélé pourquoi, à moins qu'à ses yeux, ce n'ait été évident.
Et, « Et dans ce cas, il avait tort, » fit remarquer Ron. « J'ai toujours dit qu'il était fou, brillant et tout ce qu'on voudra, mais cinglé. Légué à Harry un vieux vis d'or, non mais à quoi ça rime ?»
« Je n'en ai aucune idée, » répliqua Hermione. « Quand Scrimgeour t'a obligé à le prendre, j'étais sûr qu'il allait se passer quelque chose. »«
Ouais, » dit Harry, son pouce accélérant lorsqu'il leva le vif d'or devant lui.
« Mais je n'allais pas trop essayer devant Scrimgeour, non ?»«
Qu'est-ce que tu veux dire ?» interrogea Hermione.
« Le vif que j'ai attrapé dans mon tout premier match de Quidditch, tu te souviens ?»
Hermione parut ne rien comprendre. Ron, en revanche, le souffle coupé, montra frénétiquement du doigt Harry, puis le vif d'or, puis Harry à nouveau, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé l'usage de sa voix.
« Celui que t'as failli avaler ?»«
Exactement !» répondit Harry.
Le cœur battant, il colla le vif d'or contre sa bouche.
Mais rien ne se produisit,
et il fut brusquement envahi d'un sentiment de frustration, de déception amère. Lorsqu'il ôta la petite sphère d'or de sa bouche, cependant, Hermione s'écria
« Des lettres ! Quelque chose est écrit dessus ! Vite, regarde !»
La surprise et une excitation soudaine lui firent presque lâcher le vif d'or. Hermione avait raison. Gravé à la surface lisse de l'or, là où quelques secondes auparavant il n'y avait strictement rien, 5 mots étaient tracés d'une fine écriture penchée que Harry reconnut aussitôt, celle de Dumbledore.
« Je m'ouvre au terme. »
À peine avait-il eu le temps de la lire que l'inscription disparut.
« Je m'ouvre au terme. »
Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Hermione et Ron hochèrent la tête déconcertée.
« Je m'ouvre au terme. » Au terme, je m'ouvre au terme.
Mais ils eurent beau se répéter ces mots sur tous les tons possibles, ils furent incapables d'en tirer la moindre signification.
Et l'épée ?
Dit Ron enfin, lorsqu'ils eurent renoncé à toute tentative de comprendre le sens de l'inscription.
Pourquoi Dumbledore voulait-il que Harry reçoive l'épée ? Et pourquoi ne pouvait-il pas m'en parler tout simplement ?
Demanda Harry à voix basse.
Elle était là. À côté de lui, dans une vitrine de son bureau, pendant tout le temps qu'ont duré nos conversations l'année dernière.
S'il voulait que ce soit moi qui l'ai, pourquoi ne me l'a-t-il pas donné à ce moment-là ? Il avait l'impression d'être dans une salle d'examen, avec devant lui une question à laquelle il aurait dû savoir répondre. Mais son cerveau était lent, incapable de réagir. Quelque chose lui avait-il échappé au cours des longs tête-à-tête qu'il avait eus avec Dumbledore l'année précédente ? Aurait-il dû savoir tout ce que cela signifiait ? Dumbledore s'était-il attendu à ce qu'il comprenne ?
« Et ce livre ? »
dit Hermione.
« Les contes de Biddle le Barde ? Je n'en avais jamais entendu parler.
Tu, »« Tu n'avais jamais entendu parler des contes de Biddle le Barde ? »
s'exclama Ron, incrédule. « Tu plaisantes ou quoi ? » ?»«
Pas du tout, »
répondit Hermione, surprise.
« Tu les connais, toi ? » ?»«
Bah, bien sûr que oui !»
Harry leva la tête, son attention soudain détournée. Que Ron ait lu un livre inconnu d'Hermione constituait une situation sans précédent. Ron, cependant, n'en revenait pas de les voir si étonnés.
« Allons, voyons,
Toutes les histoires pour enfants viennent du livre de Biddle, non ? La fontaine de la bonne fortune, le sorcier et la marmite sauteuse, la pine à la babille et sa queue qui caquetait.
Pardon ? Dit Hermione avec un petit rire. C'était quoi le dernier ?
Oh, arrêtez, quoi ! S'écria Ron en regardant alternativement Harry et Hermione d'un air stupéfait. Vous avez sûrement entendu parler de la pine à la babille.
Ron, tu sais parfaitement que Harry et moi avons été élevés par des moldus, répliqua Hermione. Nous n'avons pas connu ce genre d'histoire quand nous étions petits. Nous, on nous racontait Blanche-Neige et les sept nains ou Cendrillon.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, une maladie ? S'étonna Ron.
Il s'agit donc de contes pour enfants, reprit Hermione en se penchant à nouveau sur les runes.
Bah ouais, répliqua Ron d'un air incertain. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, que toutes ces vieilles histoires viennent de Biddle. Je ne sais pas à quoi elles ressemblent dans leur version originale.
Je me demande pourquoi Dumbledore voulait me les faire lire.
Il y eut un craquement au bas de l'escalier.
C'est sans doute Charlie qui va se faire repousser des feux en douce maintenant que maman dort, dit Ron un peu nerveux.
On devrait quand même aller se coucher, murmura Hermione. Il ne faudrait pas qu'on se lève trop tard demain matin.
Tu as raison, approuva Ron. Un triple meurtre sanglant par la mère du marié jetterait un froid sur les noces. Je m'occupe d'éteindre.
Et il actionna à nouveau son déluminateur tandis qu'Hermione quittait la chambre.